Bonsoir Gladys.
Bonsoir Catherine.
Voilà, vous vous êtes embarquée sur ces ailes d'oiseaux et vous vous êtes posée dans la baie de Somme.
Oui, j'ai rencontré Philippe Carouette, un guide nature et ornithologue au parc de Marcanterre, qui est sans doute le mieux placé pour nous parler de la fascination qu'exercent les volatiles sur nous, pauvres marcheurs. Alors, ça fait 27 ans qu'il arpente ce parc et c'est toujours avec un enthousiasme d'enfant qu'il raconte les oiseaux migrateurs qui reviennent d'Afrique et la nidification des cigognes, des pouillots véloces et même des pinsons les plus communs. Alors, c'était par une journée venteuse et pluvieuse de mai.
Tiep, là c'est le pouillot véloce. Autrefois dans les campagnes, on l'appelait le compteur d'écus, on dirait qu'il compte des pièces. On a tendance à dire que les oiseaux chantent parce qu'ils sont contents, j'espère, mais vous entendez le matin au lever du jour le merle en train de chanter, il s'adresse aux autres merles du quartier pour montrer que le territoire est occupé et qu'il va le défendre contre les autres mâles. Hein, on entend la maison charbonnière aussi là qui chante aussi. Le territoire est nécessaire pour la reproduction, nécessaire pour qu'une femelle vienne sur le territoire et construise le nid et élève les petits.
Donc les femelles, elles ne chantent pas du coup?
Tout à fait, les femelles ne chantent pas, mais comme la nature a horreur de la banalité, il y a des espèces dont les femelles chantent, et notamment un oiseau qui est très commun, qui est le rouge-gorge. Chez les rouges-gorges, le mâle et la femelle sont territoriaux, mâle et femelle chantent. Ce qui fait que quand ils se rencontrent pour la première fois, eh bien, au lieu que ça se passe bien, au début ça se passe mal. Il y a des bagarres entre le mâle et la femelle, puis après ça s'arrange. Hein. Mais comme ils ont un territoire chacun, il va bien falloir trouver un territoire à occuper pour élever la nichée et élever la couvée. Hein. Dès que la mer monte, les 7000 hectares de la baie de Somme sont recouverts par l'eau. Donc tout ce qu'on appelle les vasières, hein, où les petits échassiers se nourrissent de vers, de petits crustacés, sont recouvertes par la mer, donc finalement le restaurant est fermé, donc les oiseaux viennent se réfugier sur le parc du Marcanterre. C'est ce qu'on appelle un reposoir de marée haute. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit coup de panique là. Est-ce qu'il y a un rapace, quelque chose qui est passé au-dessus? Ouais, on entend les couit, 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 couit. Là, c'est les cris d'alarme des avocettes. Le hasard n'existe pas dans la nature. Là, les avocettes, elles n'ont pas décollé pour le plaisir. Il y a certainement quelque chose qui est passé au-dessus, mais moi je l'ai pas vu. Ah, la cigogne s'est levée. On va peut-être essayer de voir les petits. On voit les petites têtes là. On voit les petites têtes qui sortent du nid.
Ah oui. Ouais.
Ah ben il y a une autre oisandrée à côté qui a les ailes écartées. Il doit y avoir les petits poussins d'oisandrée qui doivent être en dessous. Toutes petites boules jaunes de un peu jaune citron là. On dirait des éponges avec leur gros duvet. Ah, encore une cigogne qui nous survole là, qui va nous passer au-dessus de la tête là. Super, en vol plané. Chou. On entend un pinson qui chante, un autre pinson qui chante là. On est vraiment, on traverse des territoires de pinsons partout. C'est ça qui est bien, c'est que on n'est jamais tout seul dans la nature. Le printemps dernier était très froid. Je me souviens, le 25 avril, je faisais tout le tour du parc, 6 km de parcours, j'ai pas entendu un oiseau chanter. Il y avait très peu de nourriture, très peu d'invertébrés. Quand vous chantez, vous cherchez pas votre nourriture, il faut chanter le ventre plein pour pouvoir défendre un territoire. Et bien là, la défense du territoire était très très limitée dans le temps, limitée aux individus les plus costauds. Les oiseaux passaient la grande majorité de leur temps à chercher cette nourriture qui était rare. Et bien entendu, il n'y a pas eu une bonne reproduction d'une grande majorité des oiseaux ce printemps qui a été froid et qui a changé les comportements aussi de certaines espèces. Quand on entend en migration les petits chevaliers gambettes qui passent, là, je peux pas m'empêcher aussi de faire les mêmes sons qu'eux avec le Mais il y a des personnes, notamment en Picardie maritime, qui sont très douées. Il faut avoir une très bonne oreille musicale et c'est pas mon cas. Hein. J'ai commencé à observer les oiseaux, j'avais 7-8 ans et c'était cette attirance pour la vie. Beaucoup d'enfants s'intéressent aux animaux et c'est souvent par l'intermédiaire de la télévision ou des livres des animaux d'Afrique. Et je me suis rendu compte très tôt que j'irais peut-être jamais en Afrique. J'étais gamin, j'allais pas en vacances et je me suis intéressé aux oiseaux des jardins. Et mon père était facteur, donc à l'époque, les tournées se faisaient en vélo. Je le suivais avec mon petit vélo, il me montrait les oiseaux, les plantes, sans connaître les noms, hein. Il n'était pas du tout naturaliste, mais il avait le plaisir de regarder le vivant. Alors le vivant, ça allait loin, c'était aussi un joli crucifix, une porte d'église, un porche d'une ferme picarde, tout avait une valeur de vivant. Il avait été prisonnier de guerre dans les camps nazis. Donc, il avait une valeur du vivant et de la liberté qui était très, très forte. Et ça m'a donné le goût de respecter tout ce qui était vivant. Et plus ça va, plus ça s'amplifie. Là, ça décolle, là, les cigognes, les spatules. Donc là, on est arrivé sur un poste d'observation qui nous permet d'être à l'abri de la pluie et puis surtout d'avoir une vue sur ce qu'on appelle une héronnière. Des grands arbres, là ce sont des pins, mais ça pourrait être des feuillus aussi, où il y a à peu près 200 couples de grands échassiers qui nichent au sommet de ces pins. Des hérons cendrés, mais aussi des spatules, des cigognes, des aigrettes. Hop, il y a des hérons garde-bœufs là aussi, il y a encore deux spatules qui décollent là. Alors c'est un véritable aéroport, hein, avec 200 couples de grands échassiers comme ça, il y a des allers-retours sans arrêt. Voilà le vol de spatules qui arrive superbe là. 1, 2, 3, 5, 6, 7 spatules qui arrivent ensemble là. Quand j'étais gamin, j'aurais vu ça, j'aurais été fou, quoi. C'est le drame pour la radio, c'est que la cigogne est muette. Hein. Le syrinx de la cigogne est très peu développé, c'est l'équivalent de notre larynx. Donc, pour s'exprimer, elle claque du bec, elle craquette ou elle claquette, elle entrechoque les deux mandibules. Et en fonction de l'intensité du claquement, ben, voilà une de cigogne qui nous passe juste devant nous, là, superbe. Et en fonction de l'intensité du claquement, ça correspond soit à l'accueil d'un partenaire, soit à la défense du nid, soit... un signal d'alerte pour que les jeunes se couchent au fond du nid. Ces oiseaux qui sont passés devant nous, bah, c'est une rencontre. Il y a une expression que je regrette en français qui dit « bête comme une oie ». Celui qui a inventé cette expression-là, il n'a jamais observé les oies. Les oies, c'est par exemple un des rares oiseaux où l'apprentissage de la migration se fait avec les parents. Les jeunes s'accouplent la première année, mais ne vont pas se reproduire avant 3 ans, voire 4 ans. Donc quand on vous dit un couple d'oiseaux se forme, égale reproduction automatique, pas chez les oies. Quand on les a vus passer en vol, on voyait bien qu'il y avait un vrai couple ensemble, tous les deux en vol, et le troisième qui suivait un petit peu 1 ou 2 mètres derrière. Donc il y a un vrai couple officiel qui va se reproduire, qui va élever les petits, la femelle va couver, puis il y a un troisième oiseau qui peut être soit un mâle, soit une femelle, qui fait partie du couple, mais qui ne participe pas du tout à la reproduction, sauf au moment de l'élevage des jeunes, où il va élever les petits. Ce troisième, c'est certainement un oiseau qui a perdu un partenaire. Généralement, il ne se raccouple pas avec une autre oie. Donc, un moyen de faire partie du côté social des oies, c'est d'intégrer un couple qu'il accepte.
Et donc, du coup, c'est un peu comme un parrain-marraine.
C'est joliment dit, oui, c'est un parrain-marraine, oui. Ah oui, des barges rousses là, qui arrivent sur la réserve là, avec la marée haute. Ouais. Alors ça, la barge rousse, c'est magique. C'est un petit échassier qui passe l'hiver en Afrique de l'Ouest et qui va nicher en Laponie. Alors pour faire Sénégal ou Mali ou Niger, Laponie, elle fait 2 arrêts, c'est tout. Elle peut faire 4000 km en 72 heures. Quoi. Ça dépasse parfois l'imagination de voir que ces oiseaux peuvent voler comme ça pendant 72 heures de manière ininterrompue. Donc celles qui s'arrêtent chez nous sont souvent les oiseaux les plus fatigués. Et le lendemain, vous les avez plus, quoi. C'est ça aussi qui est magique dans la migration. C'est qu'à un moment donné, vous avez la chance d'être là quand tel ou tel oiseau se pose. Une demi-heure avant, une demi-heure après, ça y est, c'est fini. L'oiseau peut être parti. Ou alors, il peut, si les conditions ne sont pas bonnes, rester plusieurs jours. Et dans ces cas-là, vous en profitez. Mais c'est lui qui décide.
Merci beaucoup, Gladys, pour cette merveilleuse promenade. Vraiment, ça donne... Qu'est-ce qu'on fait ici?